Suno Assurance, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. C'est un trouble de la communication qui peut perturber gravement le quotidien de ceux qui en souffrent. Il serait près de 600 000 en France. Le bégaiement, cette répétition de syllabes, des étirements, des blocages, un trouble devenu dans le langage courant synonyme d'hésitation, voire même de maladresse. L'élocution devient complexe, pénible. Cela suscite des tensions pour le sujet touché ainsi que pour son entourage. La famille, justement, se retrouve directement impliquée dans la rééducation des enfants dont la prise en charge peut être assurée par différents soignants ou praticiens, médecins, phoniatres, neurologues, psychiatres, psychologues et bien sûr les orthophonistes. Avec nous en studio, Elisabeth Vincent, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes orthophoniste à Paris, vice-présidente de l'association Parole Bégaiement. Tout à l'heure, nous retrouverons en ligne du Togo Faisal Hamza, orthophoniste au CHU Campus de Lomé, secrétaire général adjoint de la Fédération des organisations d'orthophonistes d'Afrique francophone. En fin d'émission, nous parlerons de l'opération Carte Blanche qui se prépare pour ce mois de novembre à l'initiative du musée du Quai Branly dans 16 hôpitaux parisiens. Nous retrouverons Clémence Gros, chargée de développement des publics au musée du Quai Branly. Et puis bien sûr, le numéro de l'émission pour vos questions, vos témoignages, c'est le 33 1 84 22 75 75. La journée mondiale du bégaiement, c'est dimanche, journée de sensibilisation sur ce trouble qui mêle aspects neurologiques et psychologiques. Le bégaiement que l'Organisation mondiale de la santé classe parmi les désordres émotionnels et comportementaux. Alors Elisabeth Vincent, pourquoi quand une personne bègue s'exprime, on a cette impression d'effort et de grande tension?
C'est caractéristique du bégaiement. Parce que les accidents de parole existent dans toute parole. Si vous voyez, si je fais ça, vous n'allez pas dire que je suis bègue, parce qu'automatiquement, je me détends, vous voyez. Alors qu'une personne bègue, au contraire, va réagir en se contractant, en faisant un effort. Et ce qui est vraiment le signe du bégaiement, c'est cet effort qu'on perçoit très très bien.
Qu'on perçoit, y compris dans le physique,
une crispation
physique, comme si on devenait prisonnier de sa parole.
Mais c'est vraiment ça, c'est une prison. Alors ça commence au niveau de la parole, c'est-à-dire que la personne bègue, plutôt que se détendre, va forcer, va essayer de contrôler. Le problème, c'est qu'elle essaye de contrôler quelque chose qui n'est pas contrôlable, puisque la parole, il y a tout un aspect qu'on peut pas contrôler. Et plus elle va chercher à contrôler, plus ça va diffuser et ça va devenir des blocages qui peuvent être extrêmement spectaculaires.
Alors il y a beaucoup de malentendus sur les bégaiements. Oui. Beaucoup de gens ne savent pas exactement de quoi ils retournent. C'est un trouble de la communication. Ce n'est pas un trouble du langage. Est-ce que vous pouvez expliquer la différence?
Non, c'est pas un trouble du langage. C'est un trouble, on appelle ça un trouble de l'affluence, c'est-à-dire c'est un trouble plutôt du déroulement temporel de la parole. C'est-à-dire que tout marche bien. Moi, j'avais appelé le bégaiement la parole désorchestrée parce que finalement, tout est en état de marche, mais pour X raisons, ça se désynchronise. Et après, ce qui est important, si vous voulez, c'est toutes les réactions qu'il va y avoir après. À cette première désynchronisation des blocages de la parole, ça va être un engrenage. C'est pour ça que le message qu'on cherche vraiment à faire passer, on profite de cette journée mondiale, c'est de ne pas attendre pour intervenir de manière à éviter que la personne qui commence à bégayer, l'enfant qui commence à bégayer, s'inscrive dans un cycle infernal qui est vraiment très, très embêtant, très douloureux.
Alors, beaucoup de questions, oui. Des gens par exemple qui s'interrogent pourquoi quelqu'un qui bégaye peut chanter sans problème, sans disfluence.
Ça n'a rien à voir. Quand vous chantez, vous n'êtes pas dans l'interaction, vous n'êtes pas dans la communication. Chanter, et en plus, quand on chante, on rétablit le soutien des voyelles, ce qui n'est pas le cas quand on bégaye. Mais là, je rentre peut-être dans quelque chose d'un petit peu technique.
Oui, mais qui vaut peut-être le coup d'être expliqué quand même.
Voilà, ce qui se passe souvent quand on bégaye, c'est qu'il y a une espèce de coupure, vous voyez, entre la consonne et la voyelle, alors que la voyelle est le soutien de la syllabe. Si je dis, par exemple, vous voyez, pour dire comment, vous voyez bien que je fais une coupure entre le que et le o, et c'est impossible finalement de parler comme ça. Donc ça va faire partie du travail de rééducation, vous voyez, de redonner cet appui sur la voyelle, d'être vraiment dans le comment. Et ça, en chant, c'est essentiellement de la voyelle, le chant.
Alors, on a parlé un petit peu de cette définition globale. Alors,
oui.
Du côté des explications maintenant, Elisabeth Vincent,
oui.
Quelles sont les origines de ce trouble? Est-ce qu'on sait d'abord quelles sont ses origines?
On parle d'un trouble, en fait, d'une origine plurifactorielle. On insiste maintenant sur l'aspect plutôt génétique, du fait qu'il y ait des familles où il y a plusieurs personnes qui bégayent dans une même famille. Les recherches aussi montrent maintenant qu'il peut y avoir des particularités au niveau du cerveau. Alors ça, c'est des recherches qui sont évidemment en cours, et il y a tellement de sortes de bégaiements que c'est toujours difficile de généraliser. Mais c'est pas parce que je dirais qu'il y a un terrain prédisposant génétique ou des particularités au niveau du cerveau qu'on va devenir bègue forcément. Il y a tout l'aspect justement environnemental. Voilà. Qui va faire qu'un bégaiement va se révéler ou pas.
Cette relation, est-ce que justement cette relation peut un jour s'abîmer, en particulier pour les enfants au moment où ils rentrent à l'école?
S'abîmer, c'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'on parle, on passait d'un discours fluent à un discours disfluent au moment de la scolarisation, ou ça s'exprime bien avant?
Il peut y avoir vraiment, vraiment
tous les cas de figure.
Voilà, tous les cas de figure. Souvent, ce qui fait dire que le bégaiement, on insiste sur la composante psychologique du bégaiement, peut-être à tort, hein. Souvent il y a quelque chose qui va déstabiliser l'enfant, vous voyez, parce que il y a un équilibre fragile au niveau de la synchronisation de la parole et un événement qui va le déstabiliser comme une maladie, enfin je sais pas, l'entrée à l'école, vous voyez, toutes ces choses qui sont perturbantes peut révéler à ce moment-là un bégaiement. Mais c'est pas la cause du bégaiement.
Et on parlait pas forcément d'un âge précis, oui. Même si vous le disiez,
oui.
C'est quand même des enfants dans la plupart des cas, au niveau quantitatif du moins.
Oui.
Est-ce qu'il y a un rapport de genre, plus les filles que les garçons?
Alors, avant 4 ans, c'est à peu près la même chose, mais après 4 ans, il y a beaucoup plus de garçons. Mais comme pour tous les problèmes de langage, hein, les garçons sont beaucoup plus concernés par tout ce qui touche la communication, le langage.
Et comment on l'explique?
Alors, on peut avoir toutes sortes d'explications. Les garçons sont davantage à la motricité, ils sont plus dans la décharge motrice. Et on a beau dire, les filles sont quand même plus dans le langage, hein, dans la communication verbale.
Est-ce que certaines personnes arrivent à masquer leur bégaiement, ou est-ce que les personnes qui bégayent moins ou parlent de manière plus fluente, plus fluide, finalement, ont commencé à se guérir? Est-ce que c'est caché ou est-ce que c'est soigné?
Le vrai drame, je crois, c'est les personnes qui arrivent vraiment à cacher leur bégaiement. C'est-à-dire que, vous voyez, je vous ai parlé de l'effort et vous avez un certain nombre de personnes qui vont essayer de cacher les accidents de parole et qui vont développer des conduites d'évitement vraiment dramatiques. C'est-à-dire chaque fois qu'ils vont prendre la parole, ils vont chercher un autre mot. C'est une gymnastique vraiment qui enferme la personne. Et moi, en tant que thérapeute, les personnes que j'ai vues le plus souffrir, c'est celles que souvent je n'entendais pas bégayer. Et là, c'est ce qu'on appelle des bégaiements masqués. Et c'est l'enfermement vraiment de la personne. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle va parler, elle va être dans cette gymnastique. Elle va perdre le contact avec l'interlocuteur. Hein, c'est pour ça qu'on insiste, voyez, pour rompre cet engrenage.
Parce que pour quelqu'un qui n'est pas habitué justement à côtoyer des personnes qui sont en train de masquer, comment est-ce qu'on s'en rend compte
justement
que cette personne n'a pas traité, mais est en train de faire un contournement de son problème?
C'est très difficile à percevoir, si ce n'est peut-être un malaise, voyez, une gêne, parce que la personne n'est pas dans l'interaction. Et c'est souvent des gens qui vont éviter les situations de parole, donc on ne va pas beaucoup les entendre. Hein, voilà.
Est-ce que ça veut dire aussi que cette personne, si elle se retrouve en situation inattendue, tout peut revenir d'un coup et se retrouver face à un bégaiement irrépressible?
Généralement, elle s'arrange pour vraiment masquer. Hein, vraiment. Donc elle va éviter de parler.
C'est un refoulement.
Oui.
Un refoulement. Est-ce qu'il existe de faux diagnostics de bégaiement, Elisabeth Vincent?
Ah, ça, je ne saurais pas répondre à cette question.
C'est-à-dire à l'inverse, de dire quelqu'un, à la limite, cette personne ne bégait pas, elle a tellement bien masqué son trouble que finalement, des gens dans son entourage vont dire, elle s'est soignée et il va pouvoir vivre longtemps complètement un faux semblant.
Ah oui, ça c'est sûr. Je me souviens d'un de mes patients, un des premiers justement qui camouflait. Il n'en avait pas parlé à sa femme, il était marié depuis 2 ans, sa femme ne savait pas du tout qu'il avait ce problème-là. Et c'est tout l'enjeu, quand ces personnes-là font la démarche de venir voir
c'est
un thérapeute.
C'est parce qu'il y a une souffrance.
C'est que la souffrance devient trop forte et là, ils n'en peuvent vraiment plus.
Mais cette souffrance, elle se ressent comment? Parce qu'on se dit finalement... Personne ne s'en est rendu compte.
Oui.
Le soir, il s'endort en disant mission accomplie. Non, c'est pas comme
déjà,
ça que ça
non,
se passe.
Non, ils sont épuisés. C'est vraiment un épuisement qu'on a du mal à s'en rendre compte. C'est un épuisement parce que c'est une surveillance de tous les instants.
C'est comme s'ils étaient en permanence en train de préparer un discours en public et que c'était comme chaque intervention, chaque élocution était une sorte de performance.
Voilà, c'est une performance.
En mobilisant, à la limite, beaucoup trop de compétences par rapport à ce que nécessite une communication ordinaire.
Oui, oui, ça c'est certain, c'est certain. Voilà, j'avais envie de rebondir quand vous parliez de performance et de compétence, c'est que justement les personnes qui bégayent considèrent que c'est un problème de compétence, alors qu'au fond c'est un problème de performance. Vous voyez, c'est une distinction très importante ça.
Ils savent le faire ?
Ils savent parfaitement parler. Quelqu'un qui bégaye dans d'autres circonstances sait parfaitement parler. Et c'est ça aussi qui est tellement déstabilisant pour les parents. Vous voyez, quand un enfant commence à bégayer, l'enfant sait parfaitement parler. Mais dans certaines circonstances, le bégaiement va apparaître. Alors, c'est d'autant plus gênant que du coup, les parents se disent, mais si dans certains cas, il parle sans bégayer, il a qu'à faire un effort puisqu'il y arrive. Et là, à nouveau, c'est l'engrenage, puisque plus l'enfant va faire des efforts, plus il va chercher à contrôler ce qui n'est pas contrôlable, plus le bégaiement va augmenter.
Alors, si vous le voulez bien, Elisabeth Vincent, on va tout de suite prendre un auditeur qui nous a appelé. C'est déjà une belle démarche. On va en parler avec eux tout de suite. C'est d'abord Daniel qui est en ligne de Libreville au Gabon. Bonjour, Daniel.
Bonjour, bonjour.
On vous écoute, Daniel.
Bonjour.
Oui. Bon, d'abord, je remercie votre équipe de nous donner la possibilité de nous exprimer sur notre handicap. Hier, déjà, j'expliquais que à l'origine, je suis bègue et j'ai mon enfant de 3 ans et demi aussi qui, depuis quelques mois, commence à développer cet handicap-là. Et mon souci, c'est de savoir comment l'aider à pouvoir traverser cela sans pour autant vivre toutes les souffrances que moi j'ai eu à vivre tout au long de ma vie.
Daniel, vous définissez comme quelqu'un de bègue. On vous entend, y compris au téléphone, y compris à la radio, donc c'est quand même quelque chose d'assez éprouvant. Vous exprimez bien. Vous avez travaillé sur votre élocution. Qu'est-ce que vous avez fait?
Oui, beaucoup. J'ai beaucoup travaillé. En fait, au départ, c'était pas facile. Il faut dire que c'est quand je suis arrivé en classe de 6e, j'ai eu un professeur de français qui lui-même aussi était bègue. Et il nous a conseillé que pour pallier à ce problème, on devrait beaucoup parler. Il fallait pas hésiter de parler. Il fallait parler sans cesse. Et qu'en parlant, on finira par développer des mécanismes qui nous permettraient de pouvoir dépasser ce moment-là où on sent que la parole commence à nous manquer.
Et Daniel, votre inquiétude, en fait, elle porte sur le caractère héréditaire de votre trouble pour savoir si votre enfant risque à son tour d'être concerné.
Exactement, exactement.
Alors, votre réponse, Elisabeth Vincent.
Alors, effectivement, comme je disais tout à l'heure, il y a des facteurs héréditaires. Après, c'est pas pour ça que votre enfant va bégayer. Est-ce que vous en parlez avec lui de bégaiement, par exemple?
J'en parle avec lui. Enfin, quand il commence à bégayer, j'essaie de lui demander de continuer, de pas s'arrêter de parler, mais il s'arrête totalement et puis il dit plus rien.
Est-ce que vous l'aidez justement à peut-être à dire le mot quand il n'arrive pas à le dire?
Oui, je termine ses phrases. Et quand je termine, il dit oui, c'est ça.
D'accord. Alors, bon, c'est vrai que c'est toujours à faire avec doigté, c'est-à-dire à la fois de l'aider, mais sans parler à sa place non plus. C'est-à-dire quand vous terminez sa phrase, par exemple, de le faire plutôt sur le mode interrogatif, et peut-être, pourquoi pas, des fois, dire à côté de ce que vous pensez qu'il va dire, de manière à ce qu'il soit pas toujours dans l'approbation, vous voyez, peut-être l'amener aussi à justement prendre la parole, tout en l'aidant.
Oui, bon, enfin, j'ai remarqué que quand il s'adresse à ses compagnons, c'est beaucoup plus facile, mais quand il veut s'adresser à son père ou à sa mère, alors là, ça devient difficile.
Il y a peut-être un enjeu très différent.
Oui, ça dépend, ça c'est pareil. Vous avez certains enfants qui vont plus bégayer avec les copains, moins avec la famille, ça dépend vraiment. Ce qui est vraiment important, je dirais, c'est d'en parler avec lui, et puis de l'aider sans parler à sa place, bien évidemment. Et je ne sais pas si vous avez l'occasion d'avoir des professionnels, de pouvoir consulter un thérapeute, c'est toujours compliqué.
Je n'ai pas encore eu à consulter.
D'accord, Daniel. Merci beaucoup pour ce témoignage à Libreville. On va maintenant rejoindre au Burundi, à Bujumbura, Silver, en ligne avec nous. Bonjour, Silver.
Bonjour à tous.
On vous écoute, Silver.
Oui, j'appelle juste pour dire que le bégaiement n'est pas une fatalité. Je dois le dire aux petits-enfants de l'école primaire parce que je connais leur souffrance pour y avoir vécu comme ça. Alors, vous savez, vous êtes en classe, l'enseignant pose une question et puis tout le monde élève le doigt sur vous, non pas parce que vous n'avez pas la réponse, mais vous ne savez pas comment la donner. Alors, souvent, l'enseignant vous désigne et le calvaire commence. Vous vous battez pour répondre et il y a aussi les moqueries qui commencent. Vraiment, c'est très dur, mais avec le temps, ça évolue. Exemple, hier soir, j'ai échangé avec ma femme qui est enseignante. Et elle avait des enfants dans la classe. Et elle m'a dit oui. Et curieusement, ce sont les élèves qui ont révélé ce bégaiement. Alors, les enfants qui compatissent pour les camarades, c'est nouveau par rapport à nous à qui on se moquait.
Un changement d'attitude à l'école. Silver, vous dites je suis bègue plus ou moins guérie. Justement, comment avez-vous fait pour obtenir cette élocution assez fluide, hein, on vient de l'entendre au téléphone. Vous avez fait des exercices. Comment ça s'est passé?
Non, franchement, bon, à l'école secondaire, il y a un professeur de français qui nous donnait des romans à lire et il fallait faire un exposé sur les thèmes du roman. Alors, il a demandé un volontaire, personne ne l'a voulu. Alors, il m'a désigné. Là, j'ai paniqué. Même les élèves me disaient, comment est-ce que tu vas faire? Alors, j'ai pris le temps de mémoriser mes préparations. J'ai parlé et j'ai eu une note supérieure à ce qu'il présentait avant, qui n'était pas bête. J'ai eu les félicitations du professeur. Et comme ça, je me suis dit, finalement, c'est possible. Sinon, j'écoutais RFI et comme vous avez des conseils souvent que vous me donnez, je le mets en pratique. Avant de parler, j'inspire longuement. Bien, je dévoile mon bégaiement au public avant que je ne parle. Je l'ai réduit. Je sais que vous allez vous focaliser sur ma façon de parler. Et de grâce, suivez ce que je vais vous dire. Comme ça, il rigole et ça me décontracte.
Silver, donc merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce qu'il peut y avoir donc, comme Silver le racontait à l'instant, Elisabeth Vincent, des instants, même on peut dire des événements comme ça, déclencheurs, qui permettent à un moment donné de dépasser son trouble?
Oui, ce sont des bonnes expériences qui permettent justement de voir que, de reprendre confiance, puisque le grand problème pour les gens qui bégayent, c'est justement cette perte de confiance dans la parole, cette parole qui n'est pas fiable, et le fait de faire ces bonnes expériences redonne cette confiance.
Tout à l'heure, l'auditeur de Libreville au Gabon a employé un terme qu'on n'a pas employé jusque-là, celui de handicap. Est-ce qu'on doit considérer le bégaiement comme un handicap?
Tout dépend de la manière dont ça va être vécu. Pour certaines personnes, ça va être une particularité que justement, ils vont intégrer dans leur vie. Ça ne va pas les empêcher de faire quoi que ce soit. Et là, on peut pas dire que ce soit un handicap. Pour d'autres, ça va entraîner des conséquences vraiment dramatiques. Et là, effectivement, ça devient un handicap.
On va avoir l'occasion d'en reparler dans la deuxième partie de l'émission tout à l'heure. Mais déjà, dans ces deux témoignages, éléments clé, c'est l'école. Est-ce qu'il y a justement un effort particulier de sensibilisation à faire auprès des enseignants, mais aussi des personnels périscolaires, toutes les personnes qui interviennent dans l'école?
Absolument. Et dans le cadre de l'association Parole Bégaiement, on a fait plusieurs campagnes auprès des professeurs. Il y a des dépliants qu'on encourage à consulter. C'est très important que les professeurs soient au courant parce qu'ils ont une importance énorme. Le nombre de personnes qui racontent des traumatismes de lecture à haute voix à l'école, c'est très important que les enseignants soient au courant.
Même si Silver le disait là tout à l'heure, très important entre deux générations, entre lui et la nouvelle génération, déjà beaucoup de travail a été fait parce que les moqueries, ça ne passe plus du tout quand un enfant bègue s'exprime dans la plupart des écoles. Vous restez avec nous, Elisabeth Vincent. On se retrouve dans 3 minutes après les informations. Toujours pour parler du bégaiement. Et vous pouvez continuer à nous appeler au 33 84 22 75 75.
Priorité santé. Caroline Paré.
On se retrouve pour cette deuxième partie d'émission consacrée au bégaiement, toujours en compagnie de notre invitée en studio, Elisabeth Vincent, orthophoniste à Paris, vice-présidente de l'association Parole Bégaiement. Elisabeth Vincent, comment expliquer que certaines situations accentuent le bégaiement?
certaines situations vont induire peut-être plus de stress, peut-être plus... C'est toujours difficile de répondre parce que selon les personnes, c'est pas forcément les mêmes situations qui vont accentuer le bégaiement. Vous avez 10 personnes qui vont être très à l'aise devant un grand public, d'autres où ça va être vraiment une catastrophe, donc c'est toujours compliqué de donner une réponse unique.
Oui, ça peut d'ailleurs étonner, on voit le nom notamment de certaines célébrités, des gens qui ont l'habitude de s'exprimer en public,
absolument.
Et on voit que ces personnes sont des personnes bègues, alors qu'on ne l'aurait jamais deviné si on ne nous l'avait pas indiqué.
Voilà, parce qu'à ce moment-là, ils sont plutôt en représentation. Il y a un certain nombre d'acteurs qui sont bègues dans la vie, qui ne bégayent pas sur scène, ils sont en représentation, et ça sera beaucoup plus difficile dans une relation plus amicale, plus intime. On a vraiment tous les cas de figure.
Tous les cas de figure, c'est très singulier.
Oui.
Est-ce qu'il existe des bégaiements qui sont associés à d'autres troubles, notamment des suites d'accidents, des suites de pathologies?
Oui. Dans les contextes neurologiques, il y a effectivement des bégaiements qui peuvent apparaître, hein, suite à des AVC, suite à des traumatismes, ce genre de choses.
Et ils sont pris en charge de la même façon que les bégaiements dits naturels, qui arrivent avec l'acquisition de la vie sociale?
En gros, la prise en charge est similaire, en gros, oui.
Et ils peuvent être aussi réversibles ou pas? Alors justement, là, est-ce qu'il y a comme une dynamique beaucoup plus, on va dire, de rééducation, comme on réapprendrait à marcher avec un ergothérapeute, par exemple? Est-ce que là, est-ce qu'il y a une rééducation de cette parole pour retrouver, recouvrer complètement cette parole fluide, fluence?
Il y a un travail vraiment sur la parole elle-même, effectivement rééducatif. Après, c'est dire de retrouver vraiment le naturel, puisque c'est quand même ce qu'on vit, c'est une parole qu'on n'a plus besoin de contrôler, c'est toute la difficulté.
Alors là, ce sont des troubles causés par une autre pathologie. Est-ce qu'il y a des pathologies associées, je pense, en particulier à des troubles alimentaires?
Je n'ai pas trop connaissance de ça. A priori, dans la littérature, on ne trouve pas ce genre de choses. Chez les enfants, on trouve souvent une concomitance avec les problèmes de propreté, enfin les problèmes, disons, ça, il peut y avoir des concordances. Hein. Peut-être justement parce qu'il y a aussi une exigence en plus, parce que l'enfant se met aussi la pression par rapport à l'école, vous voyez. Il peut y avoir, on va dire, une...
Toujours dans ce climat de tension.
Voilà.
On va maintenant rejoindre le Togo, retrouver Faisal Hamza, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes orthophoniste au CHU Campus à Lomé, un secrétaire général adjoint aussi de la Fédération des organisations d'orthophonistes d'Afrique francophone. Est-ce que vous recevez à Lomé plutôt des enfants ou plutôt des adultes qui bégaient?
Nous recevons beaucoup plus d'enfants qui bégaient que d'adultes.
Avec des problèmes d'élocution, comment ça se passe? Ils viennent avec leurs parents pour tenter de résoudre leurs problèmes?
Oui, exactement. Généralement, c'est les parents qui sont les premiers à remarquer le trouble chez l'enfant, surtout les mamans. Donc, c'est elles qui accompagnent les enfants en consultation orthophonique.
Alors,
nous recevons également... Oui.
Non, je vous écoute, pardon.
Nous recevons également certains enfants qui sont envoyés par des écoles, parce que nous avons eu à sensibiliser certains instituteurs font appel aux parents des enfants et qui viennent ensuite en consultation.
Cette sensibilisation, elle se fait directement dans les écoles ou des enseignants viennent vous voir pour poser des questions?
Bon, dans notre association, nous avons eu à faire des sensibilisations dans les écoles. Dans les écoles, on regroupe les instituteurs d'un certain nombre d'écoles pour les sensibiliser sur le bégaiement.
Et comment ça se passe au sein de l'hôpital? Est-ce que l'orthophonie est rattachée à un service particulier? Est-ce que, par exemple, des parents, bien sûr, leurs enfants, vous sont adressés par certains médecins?
Oui, exactement. Il y a des médecins pédiatres qui connaissent aussi l'orthophonie et qui, dès qu'ils reçoivent un enfant et qui remarquent un problème du langage ou un problème de communication chez l'enfant, les adressent vers l'orthophonie.
Alors, vous parliez justement...
Moi particulièrement, je travaille dans un service de neurologie. Donc, les enfants que je reçois, voilà, ils sont référés via les médecins pédiatres, peut-être dans d'autres centres qui n'ont pas d'orthophonie.
Vous parliez tout à l'heure de votre sensibilisation auprès des écoles. Comment est perçu aujourd'hui le bégaiement? Tout à l'heure, des auditeurs disaient que on se moquait moins des enfants qui ont des problèmes d'élocution qu'avant. Est-ce que c'est la même chose chez vous au Togo? Est-ce que justement cette tension, ce sentiment d'isolement pour les enfants est moins perceptible qu'avant?
Oui, bon, d'accord. Le bégaiement est perçu ici comme d'abord une maladie. Une maladie qui affecte la parole. Et il y a certaines personnes qui tentent d'utiliser des pratiques traditionnelles pour guérir, entre griffes, le bégaiement.
Par exemple?
Maintenant, de façon, par exemple, le fait de boire de l'eau dans le gond, le fait de boire de l'eau dans le creux d'un arbre, voilà, il y a beaucoup de choses, ça diffère selon les cultures. Donc voilà, pour ce qui concerne l'isolement et les moqueries, c'est quelque chose qui est très fréquent ici, que nous remarquons chez la plupart des enfants que nous recevons. Ils sont généralement victimes de moqueries de la part de leurs camarades en classe. Il y a même parfois des enfants qui sont victimes de moqueries de la part de la famille. Et c'est souvent des enfants qui sont renfermés sur eux-mêmes, qui sont pas ouverts, voilà.
Et qui doivent souffrir de troubles ou de souffrances importantes au niveau psychologique. Est-ce que votre métier, hein, celui d'orthophoniste, est connu au Togo? Est-ce que les parents viennent vous voir sur le conseil de médecins, sur le conseil des enseignants, ou est-ce que certains, dans le grand public, vous connaissent?
Oui, bon, d'abord, d'accord. Et il faut dire, premièrement, que nous sommes une quarantaine d'orthophonistes au Togo, pour une population d'environ 7 millions de personnes. Donc, bon, l'orthophonie n'est pas encore très connue, surtout à l'intérieur du pays où il n'y a pas assez d'orthophonistes. Donc, la plupart des parents qui viennent voir, bon, c'est qu'ils ont soit entendu parler de la profession au cours de nos sensibilisations sur des médias ou bien au cours d'une consultation chez un médecin.
Une question un petit peu plus personnelle, hein, Faisal Hamza. Comment, oui, vous-même, êtes-vous devenu orthophoniste?
Je dois préciser que je suis moi-même un ancien bec. Je viens d'une famille de personnes qui bégayent. Donc, un peu après, bon, enfin, au fur et à mesure que je grandissais, j'avoue, mon bégaiement diminuait quand même. Mais je sentais qu'il y avait cette souffrance-là qui était toujours présente, malgré que les accidents de parole diminuaient. Donc, un peu après l'adolescence, j'ai connu un orthophoniste via un frère. Et donc, j'ai commencé le travail avec lui. On a beaucoup travaillé sur surtout la face cachée, pardon, de l'iceberg. On a travaillé l'estime de soi, la confiance en soi, travailler le débit de la parole. Et donc, c'est comme ça que j'ai connu l'orthophonie. Et donc, quelques années après, j'étais soulagé. Et donc, du coup, j'ai eu envie de devenir également orthophoniste pour aider mon entourage.
Mettre votre expérience, votre connaissance au service des autres. Justement, vous avez, Faisal Hamza, un message à faire passer?
Oui, mon message, c'est de dire à tous ceux qui bégayent qu'on peut sortir du bégaiement à tout âge. Le bégaiement, c'est pas une fatalité. Et un message particulier aux parents, c'est de ne pas attendre. Parce que les parents ont souvent tendance à dire que ça va passer. Et bon, finalement, l'enfant grandit et puis le trouble s'enracine encore. Donc, aux parents, il faut consulter un orthophoniste dès que les premiers doutes s'installent.
Merci beaucoup, Faisal Hamza. Je rappelle que vous êtes orthophoniste au CHU Campus à Lomé, secrétaire général adjoint de la Fédération des organisations d'orthophonistes d'Afrique francophone. Hein. Elisabeth Vincent, on l'entend, hein, différence impressionnante dans la prise en charge. Oui. Mais pour revenir à une partie...
Je voudrais juste revenir, parce qu'effectivement, quand il n'y a pas de thérapeute, on peut quand même consulter des sites où on trouve des précieux conseils. Hein, que ce soit le site de l'association Parole Bégaiement, il y a un autre site, Goodbye Bégaiement, où les parents qui sont vraiment désemparés par rapport au bégaiement de leur enfant vont trouver des conseils très très intéressants.
Et pour nos auditeurs, on mettra, oui, bien sûr les liens de ces différentes associations justement à la fin sur notre page Facebook et sur RFI.fr. Une question que je voulais aborder avec vous, on parle beaucoup de paroles, mais le bégaiement peut avoir directement une influence sur le rapport visuel, la façon de se comporter. On l'a dit, il peut y avoir des manifestations physiques, des tensions, des crispations, mais aussi dans la communication visuelle.
C'est très important. Et ça, c'est la première chose qu'on dit aux parents, de veiller à ce que les enfants gardent le contact visuel. Et eux également de se mettre au niveau de l'enfant de manière à ce que le contact soit maintenu. Quand on bégaye, on commence justement par, dans le comportement d'effort, à éviter le regard de l'autre parce que c'est pas confortable. Et puis dans le regard de l'autre, très souvent, qu'est-ce qu'on remarque? Le parent, involontairement, il fronce un petit peu les sourcils, vous voyez, on est mal à l'aise face à quelqu'un qui bégaye. Et alors du coup, ça renforce l'envie de la personne qui bégaye de détourner son regard et de perdre le contact avec l'interlocuteur.
Ça veut dire que plutôt que de terminer la phrase, plutôt lui demander de façon bienveillante et gentille, on continue de parler, mais tu continues bien de me regarder dans les yeux.
Bon, des fois, il suffit simplement, voyez, d'orienter avec la main, vous orientez son regard, simplement regarde-moi, ou pourquoi pas, j'ai besoin que tu me regardes quand tu parles, sinon j'ai du mal à savoir que tu t'adresses à moi. Restons naturels.
On va rester naturel avec le prochain auditeur qui nous appelle de Kinshasa. C'est Julien qui est en ligne, la République démocratique du Congo. Julien, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour Elisabeth.
Bonjour.
Bonjour les filles, comment vous êtes?
On vous écoute.
Ok. Ah oui. C'est comme je vous avais dit hier, que je suis bègue depuis mon enfance. Et depuis un certain temps, je peux dire, il y a pratiquement 7 ans, les problèmes ne m'affectent plus comme ils m'affectaient lors de mes 20 premières années. Parce que là, j'ai 27 ans et je peux vous dire que entre 4 ans et 20 ans, j'ai eu à passer des moments vraiment difficiles, en tout cas. J'ai eu à passer des moments difficiles avec mon bégaiement, mais là, j'ai appris à gérer, j'ai appris à voir les problèmes autrement et à être quand même heureux en dépit de mon problème de bégaiement.
Ça. Comment ça se passait dans votre famille?
Ah oui, en famille, d'abord, la chose n'était pas très bien perçue, spécialement avec mon père, parce que dans sa famille, il n'a pas connu des bègues dans sa famille, mais je sais que dans la famille maternelle, il y avait un oncle mou qui bégayait, et mon père ne savait vraiment pas quoi dire et comment m'accompagner à la résolution de ses problèmes. C'est beaucoup plus ma maman qui m'a accompagné à avoir quand même la petite élection que j'ai aujourd'hui.
Et vous disiez il y a une période assez longue, assez difficile. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ou une rencontre qui a fait que justement vous êtes passé de cette souffrance aujourd'hui à une situation finalement où ça se passe beaucoup mieux de plénitude?
Déclencheur, je ne me souviens pas trop, mais je me rappelle beaucoup plus de conséquences de cette période-là. Parce que c'est à cause de ces événements-là que j'ai grandi dans la timidité. Mais la cause ou l'élément déclencheur, en tout cas, je ne la connais pas. Je ne la connais pas, mais les conséquences, je m'en souviens bien. En tout cas. Mais la plus grosse conséquence, c'était la timidité. C'était la timidité, en tout cas.
Et aujourd'hui, dans votre travail, vous vous exprimez en public, Julien?
Je le fais souvent et à chaque fois que je dois parler de choses sérieuses, telles que enseigner, donner des messages, communiquer avec mes collègues des services, je ne bégaye pas. Et comme je suis bilingue, je parle le français et l'anglais, à chaque fois que je suis en mode anglais, je ne bégaye quasiment pas en tout cas. Je ne bégaye pas. Je ne bégaye pas, mais ça arrive parfois de bégayer, mais pas trop.
D'accord. On vous encourage quand même, Julia, à continuer à parler en français parce que franchement, c'est pas mal le français. Merci beaucoup pour ce témoignage, Elisabeth Vincent. Ça arrive fréquemment, ça, qu'on bégaye, par exemple, dans sa langue maternelle, mais pas dans une langue seconde. Il y a des différences de perception?
À nouveau, je vais vous dire que...
Vous allez me dire que c'est singulier.
Je suis vraiment embêtée parce que c'est vrai qu'on a, on a vraiment tous les cas de figure. Vous avez des personnes, du fait que ce soit une langue étrangère où ils sont moins à l'aise, vont moins bégayer, d'autres où ils vont plus bégayer. Vous voyez, c'est...
Mais en tout cas, ce qu'on a bien compris, voilà. C'est qu'il n'y a pas de cliché.
Voilà, il n'y a pas de
moule. Chaque personne, c'est l'individualité qui s'exprime. C'est une communication individuelle.
Moi, je voudrais simplement vous faire part de... Enfin, je suis impressionnée par les auditeurs, vous voyez, la manière dont ils s'expriment alors que ce sont des personnes qui bégayent. Et on sent que tout le travail qu'ils ont fait aussi dans l'estime d'eux-mêmes, enfin, c'est assez formidable de les entendre.
C'est surtout ça que l'on ressent, même s'il n'y a pas un accès à des thérapies, à des professionnels. Voilà. C'est un travail sur soi et surtout, à un moment donné, de dire, je ne vais pas me laisser faire.
Voilà, je vais vivre avec et je ne vais pas me laisser gâcher ma vie par ça. Et ça, on l'entend très bien avec vos auditeurs.
Eh bien, on va avoir un autre auditeur en ligne. Cet auditeur, c'est Louis. Il nous appelle de l'Eure-et-Loir, de la ville de Rouinville-sous-Ounot. Bonjour, Louis.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Oui, mais ça arrive que j'ai des difficultés de communication. Et il y a le blocage total de la parole. Et ainsi, c'est l'enjoindre l'isolement social de la personne. C'est-à-dire que la personne devient de plus en plus isolée. Par exemple, comme moi-même. Parce que tantôt, je n'arrive pas de sortir mes mots.
Louis, moi, cela dit que... Louis, excusez-moi, vous êtes en France. Est-ce que vous êtes suivi par un orthophoniste?
Bon, de grâce, j'ai passé 2 ans avec l'orthophoniste et il m'a conseillé les moyens pour éviter de bégayer.
Est-ce que vous avez senti un mieux?
Oui. Des fois, je parle couramment, tranquillement, très bien.
Et dans certaines situations, comme là par exemple à la radio, c'est un petit peu plus compliqué, on le comprend. Hein. Parler alors que plusieurs millions de personnes vous écoutent, c'est pas évident. On n'est pas simplement au téléphone comme ça avec un ami. Dans la vie de tous les jours, c'est plus facile?
Bon, dans la vie de tous les jours, oui, c'est facile et c'est plus facile. Parfois, c'est pas facile de sortir même un article, former une phrase. Une phrase française, etc. C'est pas facile.
Ça veut dire qu'après
Pour ça, je me suis dit que c'est un handicap.
Après 2 années d'orthophonie, vous ressentez encore cette souffrance et cet isolement?
Bon, après 2 ans, c'est rare. C'est vraiment rare. Il y a eu l'amélioration. Mais comme ça part pas rapidement, ça revient tantôt. Et quand je me rappelle des techniques qu'elle m'avait conseillé d'appliquer, ça disparaît.
Elisabeth Vincent, on sent quand même encore pas mal de désarroi hein, chez Louis.
Oui.
Il a travaillé sur lui.
Oui.
Et les résultats ne sont pas là d'après ce qu'il ressent.
D'après ce qu'on entend, d'après ce qu'il dit, il y a eu des progrès. C'est-à-dire que il a quand même des moyens pour qui lui permettent, voyez, de quand même d'appeler à la radio, de pouvoir s'exprimer. Après, je ne sais pas s'il a eu l'expérience aussi de travail de groupe avec d'autres personnes bègues, où il pourrait expérimenter, où ça pourrait peut-être l'aider davantage, ou de voir des groupes de self-help par exemple, où il pourrait échanger avec d'autres personnes bègues. Souvent, c'est un très bon complément à une prise en charge individuelle. Ou dans la prise en charge individuelle, on travaille davantage justement sur les techniques. Dans l'idéal, c'est de rendre ces techniques le plus naturelles possible aussi.
Merci beaucoup, Louis, de votre appel. J'aurais aimé relayer une question d'un auditeur. Hein, sa question est assez concrète. C'est Nicolas de Ouagadougou. Il nous explique qu'il bégaye depuis l'âge de 12 ans. Il fait des études supérieures, un fac de médecine. Ce bégaiement, le handicap, et il voudrait des conseils. On parle depuis le début de cette émission des différentes thérapies de la rééducation. On travaille essentiellement sur quoi? Sur la respiration, sur l'estime de soi. C'est quoi exactement quand on entre dans ce genre de soins?
On intervient sur différents niveaux. C'est pareil selon chaque patient, mais on aura un premier travail sur l'affluence elle-même. Ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, vous voyez, sur le fait de ralentir sa affluence, non pas pour ralentir uniquement, mais pour permettre une resynchronisation justement des différents composants de la parole. Si vous ralentissez un peu, vous allez pouvoir anticiper la réaction de l'autre, vous allez pouvoir adapter votre parole justement à interactions, alors que quand on bégaye, on a la tendance inverse de se précipiter, d'aller très très vite, de courir après sa parole, et c'est comme ça qu'on arrive à être coincé aussi au niveau de respiration, vous voyez. Donc c'est plus d'arriver à reprendre un bon timing, de manière à pouvoir remettre en place toutes les composantes de la parole. Ça, c'est un premier travail. Ensuite, on va travailler aussi, ou en même temps, sur justement ce dont parlait votre interlocuteur, la partie en dessous de l'iceberg, toute la confiance en soi, tout ce qui a pu être perturbé par le bégaiement, parce que c'est pas facile justement de bégayer le regard des autres. Donc tout ça, on va le travailler, et c'est très important. Tant que la personne a honte, tant qu'elle cherche à cacher son bégaiement, on ne peut pas progresser. Merci. C'est vraiment indispensable.
Merci beaucoup Elisabeth Vincent, on l'a compris, hein, l'importance de la bienveillance, interaction bienveillante, rassurer les enfants, c'est réparateur, et respecter y compris le silence qui est précieux.
Oui, très précieux.
Merci beaucoup Elisabeth Vincent, merci d'être venue dans nos studios. On redonne le site de l'association Parole Bégaiement dont vous êtes la vice-présidente, c'est
www.bégaiement.org
et puis adresse à retrouver sur le site de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
C'est une rencontre entre deux mondes, celui de l'art et celui de la santé. Pour toute la durée du mois de novembre, le musée du Quai Branly se déplace dans 16 hôpitaux parisiens de la PHP. Intervention sur le thème des cultures du monde, ateliers, lectures, conférences et même des exposés au chevet de certains patients. En ligne, on retrouve Clémence Gros, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de développement des publics au musée du Quai Branly. En quoi consiste exactement cette carte blanche ?
Alors c'est un événement qu'organise en fait la PHP tous les ans, au mois de novembre, et qui est orchestré par le réseau des médiathèques. Et cette année, leur thème étant les cultures du monde, ils ont naturellement pensé au musée du Quai Branly pour le partenaire principal de cette édition. Et donc en lien avec toutes les bibliothécaires des hôpitaux, on a prévu une programmation culturelle très dense, pour une vingtaine d'hôpitaux dans différents services. Donc voilà, comme vous l'avez mentionné, ça va des lectures à des ateliers de pratique, à des présentations de métiers, des conférences. C'est très large et c'est sur le mois de novembre et même un peu plus large. Ça commence dès cet après-midi d'ailleurs.
Et ça va dans les deux sens. Hein. Voilà. Le musée qui va dans l'hôpital, l'hôpital qui se rend au musée. Est-ce que vous pouvez nous préciser de quoi il s'agit justement, qui sont ces intervenants et comment ça se passe au niveau matériel, tout simplement?
Oui, alors on a effectivement sur l'ensemble du programme une partie qui se passe dans les hôpitaux, ce qui représente à peu près 60 séances, et une dizaine au musée, où différents patients viennent au musée. Donc toutes ces séances, elles vont être animées par les guides conférenciers et les conteurs du musée qui travaillent au musée toute l'année, mais aussi, et ça c'est plus exceptionnel, par une dizaine de membres du musée, des équipes scientifiques. On a par exemple trois restauratrices qui sont mobilisées, deux chercheurs, on a des membres de la médiathèque aussi, une conservatrice, etc. Donc des professionnels qui viennent présenter leur métier. Par exemple, on a cet après-midi un atelier autour de la restauration d'objets dans un service de psychiatrie d'adultes, ou qui vont parler de leur champ de compétences, voilà, sur présenter un personnage ou un objet, etc., sur lequel ils ont travaillé. Et c'est voilà, ces membres du musée qui se déplacent dans les hôpitaux, qui sont très mobilisés pour ça.
Et quels sont les retours justement des personnes hospitalisées qui peuvent profiter, bénéficier de ces exposés, de ces conférences ?
Alors on a toujours des retours assez très enthousiastes et parfois assez assez bouleversés. Je crois que c'est toujours pour eux une incursion du voyage et des collections du musée dans leur quotidien. Donc ça les voilà, ce qu'on entend beaucoup, c'est que ça les fait voyager, c'est que ça leur permet évidemment d'oublier à un moment la maladie, et puis et aussi de créer du lien avec les personnels soignants ou avec leurs familles quand elles sont là, de parler de complètement autre chose et de revaloriser leurs propres expériences de voyage ou leurs connaissances ou les lectures qu'ils ont pu faire, etc. Donc ça ouvre aussi des espaces de dialogue qui permettent vraiment de faire une coupure avec le quotidien de l'hôpital qui est qui est aussi importante que les contenus même qu'on va proposer, en fait.
Alors justement, des contenus ciblés sur les cultures du monde, est-ce qu'il y a justement des coups de projecteur particuliers sur l'Afrique ?
Alors oui, bon, l'Afrique est souvent abordée dans beaucoup de séances. On en a plusieurs qui sont particulièrement sur l'Afrique. On va avoir des ateliers sur la musique du Mali. On va avoir des contes africains aussi qui sont proposés tout au long de l'année et qu'on propose là dans les hôpitaux. On va avoir aussi une présentation de la part d'un des membres du musée dont je vous parlais, qui s'appelle Nicolas Menu et qui va aller faire des conférences sur la représentation en fait de l'homme blanc en Afrique à différentes époques. C'est vrai que le musée travaille souvent sur la représentation des arts africains à Paris en l'occurrence. Et là, ce sera un peu en miroir la représentation de l'homme blanc en Afrique.
Merci beaucoup. Voilà,
c'est un exemple de séance, comme il y en aura beaucoup.
Merci beaucoup Clémence Gros. Je rappelle que vous êtes chargée de développement et des publics au musée du Quai Branly, carte blanche, rencontre, hôpital, musée, 16 hôpitaux publics parisiens concernés pour tout le mois de novembre. Notre émission touche à sa fin. Lundi dans Priorité Santé, reportage signé Charlie Dupio, consacré aux conséquences de la santé des mariages forcés au Niger. Vous pouvez nous rejoindre, poser vos questions. Le numéro de l'émission, 33 84 22 75 75.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance.